I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode débrief de la draft sur TDA. Pour cette deuxième semaine, on va s'intéresser à la NFC. Je vous rappelle que les quatre épisodes de l'AFC sont disponibles évidemment sur le flux. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Alexandre Locke qui est là. Salut Alexandre.
Salut Victor, salut tout le monde.
Alexandre, que vous avez vu beaucoup sur les lives cette année. Notamment, t'as fait au moins deux mocks de souvenirs.
Ouais, c'est ça.
Donc, et t'as fait le plus dur pendant la draft, puisque t'as fait le choix par choix.
Non, pas cette année, c'était Nitti. Moi, j'ai fait les échanges.
Les échanges. Ah oui, il y en a eu beaucoup pour le coup. Bon, du coup, on disait, on va parler NFC, et pour commencer, la NFC Est. Et on ne va pas perdre de temps. Je vais te poser une première équipe sur la table et tu vas me dire ce que tu en penses. Les Dallas Cowboys. Donc, ordre alphabétique, hein, comme pour l'AFC. Donc, les Dallas Cowboys, au premier tour, ils ont pris Mazi Smith. Au deuxième tour, ils ont pris Luke Schoonmaker. Donc, Mazi Smith, defensive tackle. Luke Schoonmaker, tight end. Au troisième tour, Demarion Overshone, le linebacker de Texas. Au quatrième tour, Viliami Feuko, le edge de San Jose State. Au tour 5, Azeem Richards, North Carolina, un lineman offensif. Au sixième tour, Eric Scott, le cornerback de Southern Mississippi. Deuce Vaughn, le running back de Kansas State, la belle histoire puisque son père est dans la direction du scouting à Dallas. Donc on a vu les vidéos du père appelant le fils et en lui disant « on va travailler ensemble ». Et au septième tour, Jalen Brooks, receveur de South Carolina. Alex, dans cette liste de choix, quel est le choix qui t'a le plus convaincu ?
Alors, écoute, ce qui est certain, c'est qu'ils sont rentrés dans cette draft avec un certain nombre de besoins en termes de position, et ça a été plutôt considéré. Et notamment ce poste de defensive tackle avec Mazi Smith, donc... Je pense que pour moi, c'est la sélection qui est la plus cohérente, la plus logique et surtout la plus qui correspond à la position à laquelle elle a été choisie. Parce qu'on va certainement y revenir, mais il y a quelques sélections qui sont un peu curieuses, notamment le deuxième jour en termes de précocité dans la draft. Mais Mazi Smith, par rapport à ce qu'il va leur apporter et vraiment le besoin qu'ils avaient sur l'intérieur de la ligne, pour moi, c'est le meilleur choix de leur draft. Alors, ça tombe bien, c'est le premier. C'est un premier tour. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais voilà, j'ai été beaucoup moins emballé par le reste.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. En plus, Mazi Smith, c'est complémentaire de Osa Odighizuwa. Il y a aussi Neville Gallimore dans la rotation. Donc, vraiment cette montagne de muscles, c'était une position à besoin, et en plus c'était certainement le bon profil. Moi je vais juste, mon point positif, je vais mettre Duzvon, pas seulement pour la belle histoire, c'est que, alors on est sur un joueur historiquement petit, on est sur du Darren Sproles, hein. Vraiment ce genre de joueur où il y en a un sur 100 qui réussit, mais lui il peut réussir, c'est un vrai super running back, je trouve qu'il a une vision extraordinaire, il a des bons pieds, il est très vif, et faut pas croire, hein, il est petit, mais il est quand même costaud, il va pas se faire bouger, c'est pas une plume. Donc attention à lui, parce qu'à mon avis, il sera dans la rotation dès la première année, mais il peut rapidement devenir un numéro 2 derrière Pollard.
Oui, j'allais te le dire, il a un vrai rôle à jouer, enfin une vraie carte à jouer plutôt, parce que avec la coupe d'Eliott, ce poste de numéro 2 me semble quand même assez ouvert. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'attendais quand même une sélection un peu plus précoce d'un coureur, justement parce qu'il n'y a plus Eliott. Mais après, oui, pourquoi pas, c'est vrai que on a envie qu'il réussisse. Et quand on a vu cette vidéo, bon, alors après, c'est un peu le kitsch américain de mettre ça un petit peu en avant, mais c'est une belle histoire, c'est sympa. Et donc, oui, pourquoi pas, avec Tony Pollard, soulager le quarterback, ça peut être intéressant à suivre.
Ouais, et effectivement. Du coup, du côté négatif, on disait Luke Schoonmaker au deuxième tour, c'est peut-être le choix qui a le plus surpris de toute la draft.
De toute leur draft, c'est certain, oui, parce que franchement, aussitôt au deuxième tour, alors qu'en plus il restait quand même quelques joueurs annoncés nettement plus haut que lui, en tout cas, notamment Darnell Washington ou même Kraft. J'étais assez surpris, je ne m'attendais pas du tout à le voir avant le samedi. Donc, bien sûr, ça correspond à un vrai besoin, puisque, on le rappelle, Dalton Schultz est parti. Maintenant, va falloir quand même qu'il confirme assez vite, parce que de par ce statut de deuxième tour et le rôle forcément qui va lui être donné dès la première année, il va avoir la pression. Donc, il va falloir que le staff le mette dans la disposition pour montrer qu'ils ne se sont pas trompés. Mais c'est un vrai pari.
Ouais, moi je trouve ce choix incompréhensible. En fait, je suis assez partagé parce que Dallas, sur les 10 dernières années, c'est une des équipes qui drafte mieux. C'est peut-être même l'équipe qui drafte mieux depuis 10 ans. Il y a eu très peu de mauvais choix dans les premiers tours de la draft. Mais là, globalement, il y a peu de choix que j'aime. Comme tu dis, la logique, on la comprend. Ils ont rempli des besoins. Mais alors, Schoonmaker, je ne vais pas revenir dessus, ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais je suis moi aussi très surpris de voir aussi haut, alors que moi je trouve que c'est un joueur qui est bien partout, mais très bon nulle part. Et puis derrière, tu prends Demario Overshawn, donc une sorte de poulet sans tête, un marteau. Est-ce que c'est ce dont tu avais besoin? Moi j'ai l'impression que tu avais plus besoin d'un patron des defensive backs, un joueur plutôt en couverture, un joueur capable d'apporter un peu plus de polyvalence, et des safety polyvalents, il y en avait, donc je reste un peu surpris par ça.
Donc toi aussi, tu vois Overshawn jouer un peu plus comme safety que comme linebacker?
Oui, après, il peut jouer linebacker, hein, mais bon, t'as Leighton Van Der Esch, t'as Damone Clark, j'espère pour lui, que j'aimais beaucoup, donc voilà, j'ai un peu de mal, et puis, je sais pas, tout le reste de la draft ne m'inspire pas énormément, à part du Duzvon dont j'ai parlé. Donc moi je vais le dire tout de suite, c'est dans mes plus mauvaises notes de cette saison, et c'est pour ça que je les mets en mauvais. Et bon, comme j'ai dit, c'est les mecs qui draftent mieux depuis 10 ans, donc peut-être que dans 5 ans Cowboy CFR viendra me dire ah, t'es totalement planté, et c'est possible, mais pour l'instant je suis sur mauvais. Toi, t'en étais où? On rappelle, hein, évidemment, félicitations, compliments, encouragements, passable, mauvais ou blâme.
Bah écoute, de mon côté, j'étais parti sur un passable parce que ça correspond, disons, ils ont suivi une ligne directrice qui est les besoins, donc defensive tackle, tight end, etc. Donc, et puis ce deuxième coureur dont on a parlé. Maintenant, comme toi, je ne suis pas hyper emballé. Même Mazi Smith, ce n'est pas forcément mon intérieur, mon defensive tackle préféré. Je ne suis pas certain que je l'aurais pris non plus au premier tour, même si c'est fin de premier tour. Donc oui, passable, ça me semble passable. Mais je te suis sur mauvais. Si tu insistes, il n'y a pas de problème.
Eh bien, écoute, on a chacun notre opinion. On n'est pas obligé d'être consensuel. Il y a un mauvais, il y a un passable. C'est tout à fait possible. Deuxième équipe, les New York Giants. Donc, New York Giants, avec le 24e choix, le cornerback de Maryland, Deontay Banks. Au deuxième tour, le centre de Minnesota, John Michael Schmidt. Au troisième tour, le receveur de Tennessee, Jane Hayat. Au cinquième tour, le coureur d'Oklahoma, Eric Gray. Au sixième tour, le defensive back d'Old Dominion, Trey Hawkins. Et au septième tour, Jordan Riley, le defensive tackle de Oregon, et Gervarius Owen, le safety de Houston. Encore une fois, question protocolaire numéro 1, quel est le choix qui t'a convaincu dans cette draft?
Alors, au-delà du choix, j'aimerais parler de la deuxième journée, en fait. C'est leur deuxième journée m'a beaucoup plu. John Michael Smith, pour moi, c'était un de mes deux préférés au poste de lineman intérieur. Donc, et ça répond vraiment à un vrai, vrai besoin qu'ils avaient sur ce poste de centre. Et Jalin Hayat, alors, on connaît ses défauts, on peut en dire ce qu'on veut, mais à cet endroit-là de la draft, au 73e choix, par rapport à son profil, je trouve que ça colle plutôt bien. Donc, d'une part, par rapport à la valeur du pic, et par rapport à son profil de pouvoir jouer dans la profondeur, ce qui, pour moi, n'avait pas aujourd'hui. Paris Campbell, leur recrue, on va dire phare, si on peut appeler ça un recrue phare, c'est pas vraiment ce profil-là. Et après, on a donc Darren Waller qui est la soupape de sécurité, et puis après, des joueurs un peu plus pour le slot, un peu plus rapide comme Robinson qu'ils avaient drafté l'année dernière. Donc, c'est très complémentaire à ce qu'ils avaient. Ça offre une palette un peu plus variée à Daniel Jones. Donc voilà, c'est la cible plus la protection. Et mine de rien, cet ajout de Schmidt rend la ligne offensive des Giants plutôt séduisante. Et je ne pensais pas que j'allais dire ça il y a 2 ans. Et franchement, entre les deux tackles, Schmidt et les gardes comme ils ont aujourd'hui, bah, ça commence à avoir vraiment, vraiment un joli visage.
Totalement d'accord. Totalement d'accord. Moi, je vais parler du premier tour des Deontay Banks parce que c'est le cornerback typique des Ravens époque Martindale. Martindale qui est maintenant le coordinateur défensif des Giants. Et je trouve qu'en fait, c'est le mec, déjà je trouve, en termes de talent pur, il est excellent. C'est un cornerback de presse, c'est vraiment très physique, très, très, très intelligent. Et là en plus, tu le mets dans un système qui correspond à mort avec le coordinateur défensif de toute la ligue qui va sûrement le plus l'aider à progresser. Bon bah écoute, moi je te dis bravo quoi. Enfin honnêtement, j'aurais été Giants, même en 15 je prenais Deontay Banks. Alors là ils l'ont en 24. C'est franchement la bonne affaire. Moi, je trouve qu'il y a pas grand chose à jeter et du coup j'ai envie d'être presque provocateur. Est-ce qu'il y a un mauvais choix?
C'est difficile à dire. Après, est-ce qu'on peut parler des pics du troisième jour en disant que c'est des mauvais choix? Je sais pas. Eric Gray, c'est aussi un besoin dans la mesure où il y a besoin de rotation derrière Saquon Barkley. Après, l'avenir dira si Hawkins, Riley ou Owens peuvent être des styles et peuvent rentrer dans la rotation. Mais ça correspond aussi à des joueurs qui peuvent se faire rapidement une place dans les 53. Donc, clairement, moi déjà, rien que pour leurs deux premiers jours, je vais le dire hein, tout de suite, je partirai sur les félicitations. Parce que comme tu l'as dit, Banks, c'est au-delà du... Tu as expliqué par rapport au coordinateur défensif, mais c'était vraiment un besoin ce poste de corner. On a beaucoup parlé du poste de receveur au premier tour pour New York, mais le poste de corner, depuis le départ de Bradbury, c'était vraiment un gros besoin. Donc là, il restructure un secondary qui a vraiment un beau visage. Et donc l'attaque, j'en ai parlé. Donc pour moi, voilà, ces deux premiers jours sont vraiment brillants.
Écoute, honnêtement, j'étais vraiment entre félicitations et compliments. J'ai félicitations pour 4 équipes, les Giants, ils étaient vraiment 5e. Donc ça me va très bien pour le symbole. de mettre félicitations, parce que c'est aussi récompenser une nouvelle ère, quoi. Parce que l'ère Gettleman, ça a tué cette franchise, hein. C'était pénible à voir.
Et moi, le jeu, les choix de draft, tout.
Enfin, par masochisme, je regarde la NFCS beaucoup plus que le reste, hein, forcément. C'était pénible à voir. Et là, il y a quand même un espoir de fou qui a commencé à ressurgir dans cette franchise. Et Sean semble faire tous les bons choix. On enchaîne avec les Philadelphia Eagles, équipe intéressante, ma foi, qui au premier tour, après le defensive tackle Jalen Carter de Georgia, au 30e choix, toujours au premier tour, Nolan Smith, the Edge de Georgia, au 3e tour, Tyler Steen, le lineman offensif d'Alabama, Sidney Brown, the safety d'Illinois, Kelly Ringo, le cornerback de Georgia au 4e tour, Tanner McKee, le quarterback de Stanford au 6e tour, et Moro Ojomo, le defensive tackle de Texas au 7e tour. Écoute, en introduction, d'ailleurs je suis désolé, ça va crier au « oh là là, il n'est pas objectif, oh là là, c'est terrible et tout », il y a, je ne sais plus qui c'est, je me demande si ce n'est pas ESPN, qui a fait une compilation de toutes les notes de la draft de tous les sites, et les Eagles ont la meilleure note depuis plus de 20 ans si on accumule tous les insiders, donc ça va être CBS, ESPN, The Athletic, etc., etc. Je dois avouer que ça m'a surpris quand même que ça soit si haut, mais ça veut dire déjà qu'il y a des très bons choix. Donc, quel est le choix, toi, qui t'a marqué ?
Pour moi, la vraie belle opération, c'est Nolan Smith. Fin de premier tour, alors qu'il avait fait un combine brillantissime, qu'on sait que c'est un joueur avec un potentiel énorme, qui a pas mal pâti de sa blessure cette année, le récupérer en 30... Donc ça veut dire sans avoir à bouger, c'est vraiment parfait. Quand on sait que les extérieurs de Philadelphie donc, sont brillants, mais peuvent être considérés comme vieillissants, notamment avec Graham par exemple, on se dit que ça peut déjà être son successeur. Il va s'intégrer forcément, je pense, dès cette saison dans la rotation. Donc c'est vraiment un très 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 bon choix pour moi.
Ouais, successeur de Graham, je sais pas, parce que peut-être qu'il faudra quand même des muscles avec un setter dans le futur. Mais là où je te rejoins, c'est que, en fait, le truc, c'est que Nolan Smith, pour moi, il est descendu en 30 parce que il n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne sait pas utiliser un joueur aussi fin, un edge aussi fin. Et je pense que les Eagles, avec Hassan Reddick, ils ont quand même prouvé qu'ils savaient le faire. Et du coup, c'est quand même rassurant pour lui, comme pour la franchise. Dallas sait le faire aussi, par exemple. Il y a certaines équipes qui savent le faire, mais pas tout le monde. Et du coup, je trouve que il est vraiment tombé au bon endroit pour développer son talent. Moi, pour le coup, si je devais donner deux bons choix, c'est Tyler Steen, le lineman offensif que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a été dans l'ombre pendant trop longtemps, mais qu'il y a un joueur qui sera un garde extraordinaire et je pense un tackle tout à fait honnête. Puisque son rôle, ça va être potentiellement de devenir garde titulaire, mais aussi d'être remplaçant au poste de tackle, puisqu'il y avait un manque. Et je trouve que c'est ce genre de joueurs qui, athlétiquement, techniquement, sont déjà NFL ready. Donc, bien sûr que la progression, elle ne sera pas forcément folle. Je ne suis pas en train de dire qu'il va finir pro bowler. Mais pour une équipe qui veut jouer le titre maintenant, et par définition, les Eagles, à tort ou à raison, mais ils jouent le titre maintenant... Je trouve que c'est le genre de joueur qu'il faut prendre. Donc ça, j'ai adoré. Et mon petit coup de cœur, c'est Moro Ojomo, donc au 7e tour.
Ça, c'était un peu inespéré.
C'était inespéré. Pour moi, c'est un joueur assez unidimensionnel, dans le sens où, pour moi, c'est surtout un défensif tackle contre la course. Mais on a vu que ça a été quand même le problème numéro un des Eagles l'année dernière en défense. Donc là, on va dire que t'as Carter et Davis en titulaire. Tu vas vivre ou mourir avec ça. Mais derrière, tu vois, t'as plutôt un rusher Milton Williams, plutôt un défenseur de course Moro Ojomo, ça donne de la flexibilité. Ça, j'ai beaucoup aimé. De l'autre côté, et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être un peu haut au niveau des notes, c'est autant les Giants, par exemple, j'arrivais pas à trouver un mauvais choix, autant, et je vais parler après toi, mais moi, je vois potentiellement un choix qui me dérange. Dis-moi, toi, est-ce qu'il y a un choix que tu trouves mauvais dans cette draft des Eagles ?
Alors, Mauvais, je dirais pas mauvais, mais il y a un choix qui m'intrigue, qui m'inquiète aussi, même si on peut dire, c'est Jalen Carter. Cette situation extra-terrain, je la trouve quand même préoccupante, parce que mine de rien, l'affaire, elle reste quand même encore d'actualité. Et je l'ai trouvé tellement cramé lors de son pro day que je me dis qu'il y a quelque chose dans sa tête qui s'est cassé pendant cette histoire, et peut-être que ça va jouer négativement sur sa, en tout, au moins sur son début de carrière.
Je pense que tu sais, souvent il y a des classes de draft qui, souvent à tort d'ailleurs, sont jugées par le quarterback. On parlait des Colts il y a quelques jours. On disait, de toute façon, même si tous les autres sont bons, si Richardson se plante, ils diront que c'est une draft ratée. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Carter. C'est-à-dire, est-ce que Carter est de base le joueur le plus talentueux de cette draft? Oui, ou en tout cas top 3. On peut parler de Bijan, on peut parler machin, mais c'était dans le très haut du très haut. Mais la réalité, c'est en effet qu'on a potentiellement un cas social qui potentiellement foutra presque pas les pieds en NFL. Donc, ça dépendra de vraiment son attitude. Alors, l'avantage, c'est que pour l'instant, son attitude, elle est plutôt bonne. Il a, on va dire qu'il a montré des signes encourageants sur les interviews post-draft. Il est le premier joueur du premier tour à avoir signé son contrat. C'est un détail, mais dans la communication, c'est pour faire genre, je suis investi, comptez sur moi, dès le premier jour, je serai là, etc. Et mine de rien, moi, la seule chose qui me rassure un peu, c'est qu'il a quand même autour de lui Jordan Davis, Nako Bedin, Nolan Smith et Kelly Ringo. Donc, il a quand même pas mal de potes.
Eh bien, tu vois, c'est, moi, c'est ça qui m'inquiète.
C'est ça qui t'inquiète, parce que ouais. Georgia, c'est vrai que c'est voilà. Ça peut être une usine à problèmes parfois. Mais...
Exactement. Trop de Georgia tue le Georgia. Mmh. Et c'est ce qui pourrait, moi, me faire tiquer sur l'ensemble de cette draft. Parce qu'on peut rappeler aussi qu'il y a quand même D'Andre Swift qui est arrivé dans un échange. Donc, qui était aussi de Georgia,
même pas à la même époque. Forcément
un petit peu plus vieux que les autres. Mais j'ai peur que ça fasse un effet de clan entre donc, les anciens Bulldogs et les autres. Alors, bien sûr, normalement, c'est aussi le boulot des coachs de ne pas laisser faire ça. Mais voilà, Georgia, c'est effectivement, tu l'as dit, ça peut être rapidement des cas sociaux. J'en connais aussi quelques-uns qui sont aux Packers et... C'est pas toujours brillantissime, en tout cas en termes de comportement. Donc, je sais pas si ça va l'aider plus que le desservir.
Ouais, ben moi c'était ça hein, globalement. Enfin, moi je vais te dire tout de suite, cette draft des Eagles, je pense que c'est pas pour rien qu'elle est super bien notée. Moi, je pense que par définition, elle doit être en félicitations parce que quand t'as avec le 9e choix le joueur le plus talentueux de la draft et avec le 30e choix un top 15 niveau talent. Bah déjà, tu as réussi ta draft, quoi. Donc, pour moi, c'est et tu as répondu à tous les besoins. Tu as répondu aux besoins de lineman offensif, de safety, de defensive tackle, ouais. De edge, de cornerback, même de quarterback remplaçant, même si, pour le coup, tu peux pas faire beaucoup plus opposé que Jalen Hurts et Tanner McKee. C'est un peu surprenant, mais enfin bon. Mais pour moi, sur le papier, c'est une masterclass, tu vois. Sur le papier, c'est félicitations, machin et tout. La réalité, c'est que ça dépendra de Jalen Carter.
Ouais, bah de toute façon, c'est comme tu l'as dit, hein, quand tu choisis au 9e choix, qui n'était pas leur spot, hein, ils sont montés donc d'un cran, tu prends le risque que si le joueur est un échec, effectivement, ta draft sera nettement moins bien évaluée. Et moi, en fait, c'est un peu pour ça que de base, je restais sur compliment. Mm-hmm. Maintenant, clairement, si on analyse froidement chaque poste, chaque joueur et la valeur potentielle dans l'effectif, le rapport dans l'effectif, là, oui, on peut passer sur des félicitations.
Après, moi, tu vois, des considérations que tu avais et les problèmes que tu as identifiés, je les comprends très bien. Donc, je peux comprendre qu'on soit que sur compliment. Hein. Ça me choque pas du tout, mais en tout cas, les riches deviennent toujours plus riches. On peut dire que les Eagles sur le papier resteront probablement favoris des NFCS l'année prochaine.
Et NFC tout court, je pense aussi. Et on en avait déjà un peu parlé ensemble sur le chat de la rédaction, mais quand même, rendons hommage à Howie Roseman qui prouve saison après saison le grand GM qu'il est. Donc moi, je suis admiratif Dieu sait que le manager général des Packers me laisse des fois un goût amer, autant celui des Eagles me fait un peu envie.
Bah écoute, c'est sûr qu'en tout cas, c'est son heure de gloire là en ce moment. Une équipe qui ne sera pas favorite pour la NFC et pour la NFC Est, c'est les Washington Commanders. Et Washington Commanders, ils nous ont fait des choix assez surprenants. Au premier tour, au 16e choix, ils prennent un cornerback, mais alors que Christian Gonzalez est disponible, ils prennent Emmanuel Forbes, le quarterback de Mississippi State. Au deuxième tour, le safety Jartavius Martin de Illinois. Safety, nickelback, vous connaissez maintenant, c'est très polyvalent les safety de nos jours. Au troisième tour, le centre Ricky Stromberg. Au quatrième tour, le garde Braden Daniels. Au cinquième tour, le edge KJ Henry. Au sixième tour, le running back Chris Rodriguez. Et au septième tour, le edge de Louisiana, Andre Jones Jr. Alex, ton choix chouchou. Il y en a des jolis quand même.
Alors franchement, quand je vois cette liste de noms, je souffle. Voilà. C'est la ma première réaction. J'aime bien Washington et à chaque fois, je reste un peu sur ma faim. On peut pas dire qu'ils n'ont pas considéré les besoins. Ça, c'est sûr, ils avaient besoin de defensive back, ils avaient besoin de renforcer l'intérieur de la ligne. C'est fait. Emmanuel Forbes, il est un peu déçu au combine par rapport à son gabarit, etc. Maintenant, c'est un vrai joueur de ballon, si on peut dire, pour créer des turnovers, dévier les passes, etc. Donc, ça peut être un choix, un bon choix. Moi, j'aime bien. Maintenant, en 16, quant à Christian Gonzalez, qui est encore disponible, voire même Joey Porter, ça peut quand même poser question. Et ils vont être clairement jugés aussi là-dessus. Mais voilà, dans cette liste, c'est le joueur que je préfère, si tu veux. Mais j'aurais compris s'ils avaient reculé 23-24 et que Gonzalez était parti, j'aurais compris. Il y avait une telle hype sur Christian Gonzalez et de telles, entre guillemets, certitudes, parce que peut-on vraiment avoir des certitudes quand on sélectionne un joueur universitaire? Ça, c'est une dissertation philosophique, mais Emmanuel Forbes en 16, c'est un peu haut.
Ouais, mais j'adore Forbes. C'est un super playmaker. J'en ai parlé dans les pastilles. Moi, c'est un joueur vraiment que j'aime du fond du cœur. Mais quand je vois Forbes passer juste devant Gonzalez, ça me donne quand même des flashbacks de Régor qui passe devant Justin Jefferson. Tu vois, ce genre de pic où tu veux être plus intelligent que les autres et dans 3 ans, tu te seras pris un mur. Encore une fois, Forbes, voilà, l'instinct du tueur, le playmaker, il est là. Il a quand même un physique qui est très limité pour la NFL. Donc, c'est potentiellement un risque beaucoup plus grand que Christian Gonzalez. On verra ce que ça donne. Moi vraiment, ce que j'ai aimé, c'est l'enchaînement au choix 4-5, Braden Daniels et KJ Henry. Parce que pour le coup, je vais être presque provocateur, mais KJ Henry, moi, je me suis demandé si c'était pas le meilleur edge de Clemson l'année dernière. Alors certes, il coche peut-être moins de cases que Miles Murphy, mais moi je trouve qu'en tout cas sur le terrain, il a été au moins aussi bon. Et Braden Daniels, moi je trouve que c'est vraiment un super joueur. Il est athlétique, il est polyvalent, il a d'expérience vraiment, une belle expérience, une belle technique. C'est vraiment le genre de joueur, je sais pas, moi je lui vois bien une belle carrière. Et à minima, ce sera un remplaçant solide. Et évidemment, mon coup de gueule, c'est Ricky Stromberg, puisque
je sais pourquoi.
À moyen terme, ça veut dire qu'il va remplacer le bien nommé Chase Roulier. Et est-ce qu'il y a un choix vraiment, tu disais, je souffle, c'est quoi le choix où vraiment tu t'es dit, non, là, il aurait fallu faire autre chose? Peut-être Martin, ça a été très débattu.
Martin, pareil, c'est un peu, en fait, si tu veux, c'est pas tellement une problématique de joueur ou de poste. C'est une problématique de valeur par rapport à la sélection. Jatavius Martin, je ne m'attendais pas du tout à le voir en choix 47. Alors, je peux comprendre peut-être une certaine forme de frustration parce que Brian Brunch part en 45 et ils se sont dit peut-être qu'il va y avoir un rush sur les safety, donc on anticipe. Mais c'est un petit peu tôt. Après, en termes de joueur deuxième safety à sortir, pourquoi pas? On avait souvent présenté d'autres joueurs, mais ça, à la limite, je peux comprendre. Mais c'est trop tôt, encore une fois. C'est, en fait, c'est deux choix de joueurs intéressants, mais trop tôt. C'est ça qui me fait souffler.
Je suis assez d'accord. Moi non plus, ça ne me choque pas qu'il soit deuxième safety. Honnêtement, je n'ai aucun problème avec ça. Ça me paraît un peu haut. Après, en soi, moi, encore une fois, là, c'est... La réussite d'Emmanuel Forbes va être décisive, mais bah, tu sors de cette draft, tu te dis ouais, ils ont rajouté des bons remplaçants. Est-ce qu'ils ont rajouté des titulaires?
Bah,
c'est pas sûr, quoi.
Martin, typiquement, pour moi, il n'est pas titulaire s'il joue safety. Parce que Derek Forrest, il a été bon l'année dernière. Cameron Curl, il est plutôt très solide depuis qu'il a été sélectionné.
Ouais, ouais,
très, très tardivement dans la draft, parce que de mémoire, c'est un 7e tour.
Bah, à mon avis, il sera nickelback, hein.
Voilà, je pense que quand on regarde l'effectif là que j'ai sous les yeux, oui, il a une place pour être nickelback avec effectivement Forbes et Fuller sur les extérieurs. Mais safety, ça serait injuste un peu de déplacer les deux autres, je pense. Donc oui, tu as raison, c'est peut-être des remplaçants.
Avoir aussi Benjamin Saint-Just, hein, qui avait été très intéressant et qui va encore être dans la rotation. Donc il va y avoir un vrai duel. Mais c'est sûr qu'il y a un monde où Martin, imaginons Saint-Just gagne le spot en nickelback, Martin, il peut commencer la saison sur le banc. Hein. Mm. C'est tout à fait envisageable. Du coup, on est plutôt sur une appréciation négative de ce que je comprends. Est-ce qu'on est sur du passable? Est-ce qu'on est sur du mauvais? Est-ce qu'on est sur du blâme?
Moi, je vais rester sur du passable parce que j'aime bien Forbes. Tu l'as dit, KJ Henry, ça peut être intéressant. Surtout que bah, ils n'ont pas levé l'option de Chase Young, hein, pour la cinquième année. Donc, est-ce qu'ils le voient peut-être comme un successeur à couver pendant un an? En tout cas, il y a de l'idée, donc je vais rester sur passable.
Totalement d'accord avec toi. Je pense que voilà, c'est passable sans être particulièrement mauvais. Et puis, on jugera dans 3 ans la qualité de ce que sont devenus les joueurs. On a donc fini pour cette NFCS, pour ce premier podcast ensemble, parce que spoiler, il y en aura un deuxième, où nous allons parler d'une équipe chère à ton cœur. Merci à tous, merci à toi Alexandre.
Merci Victor.
Et du coup, on se retrouve dès demain pour parler de la NFC Nord. Salut à tous.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Croquage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.